Jean-Georges, on est ici chez vous dans votre salon. Est-ce que ça vous arrive souvent de monter à l'étage et d'aller dans le temple ?
De temps en temps, donc on a le matin, de toute façon, il faut faire des offrandes selon la tradition tibétaine. Donc c'est souvent moi, si je me lève plus tôt que ma femme, c'est moi qui vais faire ces offrandes. Et puis de temps en temps, pour méditer un peu, c'est un endroit un peu isolé, loin de la télévision, donc ça permet un peu d'être au calme, de méditer tranquillement, quoi.
Comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer une femme tibétaine ?
En fait, je me suis intéressé au Tibet, au bouddhisme, dès l'adolescence, en fait. Et donc, j'ai commencé après à aller en Inde. En fait, je suis arrivé un jour, c'était juste le jour où on avait assassiné Indira Gandhi. Et l'unique moyen que j'avais de quitter Delhi à l'époque, c'était d'aller à Dharamsala. Alors bon, là-bas, j'y suis resté, tant que ça se calme. Et puis en fait, je suis revenu chaque année parce qu'il y avait des enseignements du Dalai Lama là-bas. Ce qui fait qu'à un moment donné, donc on avait eu des amis communs, on s'est rencontrés, et puis voilà.
Comment ça s'est passé pour Pasang lorsqu'elle est arrivée en Suisse ?
Bon, Pasang, elle est passée par plusieurs chocs culturels, je dirais. Elle a connu l'époque communiste, enfin en Chine, la jeunesse communiste, les petits livres rouges, le foulard, tout ça. Elle a eu son premier choc en passant en Inde. Et puis au bout de 5 ans, elle est venue en Suisse, un deuxième choc. Elle a beaucoup souffert, je dirais, au départ, parce que les gens étaient très fermés. Les Tibétains ont l'habitude de sourire à des étrangers. Et ici, elle s'est retrouvée typiquement... Elle essayait de sourire aux gens, les gens ne répondaient pas. Elle essayait d'aider les gens, des fois, dans le bus, par exemple. Les gens avaient peur d'elle. Si elle faisait un mouvement vers ces gens, les gens se refermaient. Alors ça lui a fait mal, je dirais. Je dirais le dernier choc culturel qu'elle a eu, c'est en retournant au Tibet. Parce qu'après 10 ans, en retournant au Tibet, on s'est rendu compte qu'il fallait maîtriser le chinois pour se débrouiller en ville. Les gens, ne parlaient pas tibétain. En ville, les gens parlaient chinois. Dans les magasins, dans les restaurants, les gens parlaient chinois. Même dans la famille, la moitié des mots utilisés étaient en chinois. Et ça, ça l'a choqué parce qu'elle a quitté le Tibet, elle a gardé un souvenir, un peu comme une image, un peu de l'époque qu'elle a vécue en fait au Tibet. Et en revenant au Tibet, tout ça avait disparu.
Est-ce que vous trouvez que Pasang a beaucoup changé depuis qu'elle vit en Suisse ?
Oui, elle s'est un peu adaptée à la mentalité suisse. Un peu. Disons, elle a conservé un peu quand même le bagage tibétain qu'elle avait, sa façon de penser, un peu d'aborder les problèmes, ça. Par contre, je pense qu'elle a adopté un peu aussi des vues individualistes, un peu. Disons, elle est devenue un peu plus autonome. C'est vrai que les Tibétains, au départ, enfin quand ils sont en groupe, ils ont peur d'agir seuls, donc ils agissent toujours... En groupe, quelqu'un prend une décision en groupe. Et ça a été très dur. La laisser partir seule le matin, prendre le bus, ça lui a fait peur au départ. Bon, maintenant, elle a pris un peu d'assurance et puis d'autonomie aussi. Donc, elle se débrouille beaucoup mieux maintenant.
Quel est votre rêve aujourd'hui, Pasang ?
Je n'ai jamais pensé, jusqu'à maintenant, moi-même. Mais j'ai toujours souhaité un jour libérer le Tibet. On a Tibétain tous rentrer chez nous. Quoi. Ça, c'est juste une chose où j'étais. Chaque jour, je payais ça, oui.
Merci à Pasang et merci à sa famille. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau portrait de personnes étrangères qui résident dans le canton de Neuchâtel. Cette rubrique est soutenue par le bureau du délégué aux étrangers du canton. À bientôt. Bye bye.